Introduction aux prières lues. Nous commençons ce petit travail à la demande d'un ami qui nous a demandé si tu connais des prières lues, donne-moi des indications. Alors, comme j'en connais pas de bien faites, je vais le faire moi-même. Et il y a nécessité de le faire parce qu'aujourd'hui, en fait, dans les milieux dits chrétiens, enfin dans les milieux qui se réclament du christianisme, c'est-à-dire aujourd'hui, la plupart des gens probablement qui se réclament chrétiens ne le sont pas. Dans les milieux dits chrétiens, aujourd'hui, on est. Enfin, on le sait, hein, si on prend la prière de Léon XIII, vers la fin du 19e siècle, il dit que les esprits mauvais, les démons sont répandus partout sur la terre et parcourent la terre en tous sens pour perdre les âmes. Pie X, au début du 20e siècle, dit que les pires ennemis de l'Église, il ne faut pas les chercher à l'extérieur de l'Église, mais à l'intérieur de l'Église, et qui sont en très grand nombre. Et puis aujourd'hui, on est dans une situation qui est pire que l'époque de Léon XIII et pire que l'époque de Pie X. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a partout, dans ce que certaines personnes persistent à appeler l'Église catholique, c'est-à-dire dans les paroisses de la secte vaticane, ça pullule de prières. Ça pullule de prières. Alors non seulement il y a les prières qui sont composé par ceux qui se prétendent prophètes, mais par une mode qui est typiquement moderniste, chacun fabrique sa propre prière. C'est tout à fait logique avec le modernisme, puisque le modernisme est une doctrine qui explique que la foi n'est pas quelque chose qui est reçu de Dieu, mais quelque chose qui vient du fond de l'intérieur du cœur. Alors, si la foi nous est donnée de l'extérieur, c'est logique de prier avec des prières qui nous sont enseignées de l'extérieur. Mais si la foi, c'est quelque chose qui surgit à l'intérieur du cœur, selon l'hérésie moderniste, définie par Pie X, condamnée par Pie X, ben c'est logique de faire des prières qui sont venues de l'intérieur de nous-mêmes. Alors, comme il y a beaucoup de. Donc, il y a autant de prières qu'il y a de personnes, et puis non seulement autant de prières qu'il y a de personnes, mais même on peut faire une prière tous les jours, on peut même faire une prière toutes les secondes. Donc, on croule sous une masse de prières, et Internet est envahi par un flot de prières toutes aussi débiles et hérétiques et nocives et démoniaques les unes que les autres. Alors que la vérité est toujours simple, les solutions à tous les problèmes sont simples, parce que Dieu lui-même est simple et que Dieu est la solution à tous les problèmes, alors qu'en fait, il existe. Dieu nous a commandé de prier, et comme il est bon, il nous fournit de quoi prier, puisqu'il nous commande. Il va nous donner les moyens de faire ce qu'il nous commande, évidemment. Donc il nous a commandé de prier sans cesse, et des prières, il nous en a donné. Je pourrais même dire beaucoup, si on compare par rapport au flot de fausses prières qui sont en circulation aujourd'hui, il faut dire finalement que le Seigneur nous en a donné relativement peu. Relativement peu, mais il y en a quand même beaucoup. Mais il y en a quand même peu, parce que si on veut vraiment choisir les plus importantes, et c'est ce que nous allons faire nous, et on ne va pas le faire selon notre jugement propre, on va le faire d'après l'évidence, d'après ce que nous est transmis par la tradition, et l'évidence, par exemple, l'évidence, c'est que une des dernières plus grandes saintes qui soit connue, c'est Élisabeth de la Trinité, et qui a écrit une prière qui est absolument prodigieuse. Il est évident que cette prière absolument magnifique et splendide, elle est très digne de rentrer dans la liste des prières les plus importantes dans l'Église catholique. Des quelques prières, je pourrais dire dans peut-être dans les 20 Par rapport aux prières qui ont été rajoutées aux prières traditionnelles, le Pater, l'Ave ou quelques prières des papes qui ont été commandées par les papes, après, si on veut rajouter disons, une vingtaine de prières, il est absolument évident que la prière d'Élisabeth, elle rentre dans ces 20 plus importantes, et certainement dans les 10 plus importantes. Donc on va faire un choix, mais qui vraiment n'est pas un choix personnel, qui est un choix, on prend la tradition. Il est bien connu de tous les vrais chrétiens que, par exemple, le Memorare, ça fait partie des prières du chrétien, indispensable. Sous votre protection, c'est pareil. Il y a des évidences. Bon, Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est évident que c'est la plus grande sainte des temps modernes. Alors on va prendre une prière. Qu'est-ce qu'on va faire chez Thérèse? On va prendre une prière simple et qui peut être utilisée tous les jours. Ça va être la prière quotidienne. Vous voyez, on fait pas un, on va pas faire un choix personnel. On fait un choix qui est de l'ordre de l'évidence. Alors là, après, il y a peut-être quelque chose qui va paraître comme personnel. Quand on va introduire dans cette liste des prières les plus importantes de la religion catholique, la prière à consécration à Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. D'après ce que j'ai vu, cette prière, elle est peu pratiquée. Alors là, il y a peut-être une action personnelle que nous allons faire, parce que j'ai vu qu'elle était peu pratiquée. Pourtant, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il est bien connu. On en parle. Mais très réellement, j'ai quasiment jamais entendu un jour. Moi, personnellement, je vais conclure comme ça. C'est un jour, un ami. C'était au tout début de ma conversion, vraiment au tout début, les premiers jours de ma conversion. En 2004, printemps 2004, il m'a donné une image sur le dos de laquelle il avait collé lui-même, il avait fait ce petit montage, cette prière à Louis-Marie Grignon de Montfort, la consécration Marie, je l'ai faite. Et depuis ce jour, c'est le fondement de ma vie chrétienne. Et c'était en 2014, donc il y a 17 ans, et ça n'a pas bougé. C'est le fondement, ça a été pour moi le fondement de ma vie chrétienne. Et je vais vous dire un petit détail très important. Cet ami avait collé cette prière au dos d'une image qui représentait une statue, le visage d'une statue de la Sainte Vierge qui aujourd'hui représente les apparitions de Medjugorje. Vous savez, celle colorée avec des couleurs roses et tout ça. Voilà, il y avait pile et face, sur la côté face, parce que c'est la face de la Sainte Vierge, c'était le côté satanique, et le côté pile, c'était le côté divin. Voilà, cet ami m'a transmis ce cadeau à moitié empoisonné, à moitié saint. Et par la grâce de Dieu, j'ai, après avoir navigué dans les deux milieux, hein, j'ai fréquenté abondamment les faux prophètes, je me suis abonné à Stella Maris, la revue officielle du diable. Pendant quelques années, voilà, j'ai navigué entre satanisme et catholicisme sans savoir que c'était du satanisme, tout ça. Hein. Je suis allé voir les faux prophètes, je me suis fait imposer les mains, enfin, j'ai même mangé à table avec un prophète, enfin, j'en ai vu. Hein. Et puis un jour, bah, j'ai fini, c'était au début de l'année 2009 ou 2008, je ne sais plus. J'ai basculé. Je peux vous dire comment. Comme fréquentais tellement assidûment les faux prophètes, une personne qui organisait une conférence m'avait proposé de venir participer à l'organisation de la conférence. En fait, elle n'avait vraiment pas besoin de moi. C'était juste pour m'amener à m'approcher encore plus pour finir par tomber au piège dans un piège. Je ne sais pas pourquoi la chose est arrivée comme ça, mais elle est arrivée comme ça. Parce que ça paraît bizarre. Alors on prépare une table avec plein de livres et tout ça, la table du conférencier, de la fausse prophétesse, puisqu'il s'agissait d'une dame. Elle est toujours en activité aujourd'hui. C'était une des pires, Catherine. Et alors, il y avait un papier sur la table. Moi, je suis très curieux, mais d'une curiosité qui est sainte, observateur, on pourrait dire. Un papier sur la table, je retourne le papier, je vois une liste écrite à la main. Il y avait marqué en haut, demande à maman. Et puis après, il y avait quelques demandes. Alors, je me retourne vers l'organisatrice de la conférence et je lui dis, c'est quoi ça? Elle prend le papier, elle retourne violemment et me dit, ça ne te regarde pas. Alors, c'est très difficile de comprendre ce qui s'est passé parce que on peut bien imaginer que ce papier, il avait été posé là, pas par erreur. Ça me paraît difficile d'imaginer qu'il a été là par hasard, par erreur, et que moi, j'ai découvert quelque chose qu'on ne voulait pas que je découvre. Ça m'étonnerait. Moi, j'ai plutôt l'impression que le papier était là pour que je finisse par le voir. J'en sais rien. En fait, je ne sais pas. Toujours est-il que ce papier était là. Il y avait des prières à Mammon, c'est un des noms du diable. Alors, j'ai commencé à avoir la trouille. Et très courageusement, j'ai marché un tout petit peu. Voilà, oui, pas trop vite. Je suis sorti de la salle de conférence, c'était dans un hôtel à Antibes. Ensuite, je suis allé assez rapidement à la gare. Je suis rentré chez moi. Et très courageusement, une fois que j'étais chez moi, parce que j'aurais pu rester devant la porte de la conférence et avertir tous les gens, on est chez le diable, on est chez le diable, j'ai pas eu ce courage-là. Je suis rentré chez moi. Une fois que je suis rentré chez moi, à l'époque, j'avais pas de téléphone portable, j'appelle des amis qui devaient aller à la conférence. Et une fois que moi j'étais déjà arrivé, le temps que je rentre jusque chez moi à Nice, au moment où j'arrive chez moi, ben, mes amis étaient déjà en train d'arriver, étaient déjà dans la conférence et ça avait déjà commencé. Et là, j'ai dit, on est chez le diable. Et alors, il me dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Non, 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 qu'est-ce que tu racontes? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Et on m'a pas cru. C'est peut-être pour ça que ce n'était pas la peine que je reste devant la porte, parce que si j'avais dit ça, de toute façon, on m'aurait pas cru. Donc. Et depuis ce jour-là, j'ai réfléchi un peu à tout ça. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai réfléchi, je fais juste une introduction. Donc, et depuis, j'essaye de. J'ai compris que dans ces milieux chrétiens, dits chrétiens, on ne sait pas vraiment s'il y a beaucoup de chrétiens dans ces milieux-là, mais enfin, c'est des personnes qui se disent chrétiens, chrétiennes. On est envahi par un flot de mensonges, de fausses prières. Et depuis ce temps-là, j'essaye de. Très peu de temps après, j'ai commencé à acheter des catéchismes. Parce qu'en plus, j'avais monté un groupe de prière qui était en relation avec un faux prophète. Alors, pour faire réparation de mon péché, j'avais acheté des catéchismes de Saint Pie X et j'ai distribué gratuitement des catéchismes de Saint Pie X à toutes les personnes qui avaient. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 5 ou 6. Hein, à toutes les personnes qui avaient participé à mon groupe de prière qui était organisé en relation avec un faux prophète et dans lequel on priait des prières d'un faux prophète. Donc pour faire réparation de mon péché, du scandale que j'avais donné, hein, en attirant les hommes à faire le mal, pour réparer ça, j'avais acheté les catéchismes de Saint Pie X et j'avais distribué ça. Et la remarque de cet ami qui au tout début m'avait donné cette image avec cette prière, c'est « Mais pourquoi tu lis pas le catéchisme de l'Église catholique ?» Je lui avais répondu « Parce qu'on n'y comprend rien. » C'est un des principaux arguments pour prouver que c'est ce catéchisme, l'Église catholique est satanique, c'est que franchement, c'est exprimé dans un langage confus. Et quand on étudie le modernisme, on sait que c'est fait exprès. Hein. C'est pas parce qu'ils savent pas écrire le français. Par ailleurs, peut-être qu'ils savent pas l'écrire le français, ben, ou le latin, parce qu'à l'origine, c'est en latin. Peut-être qu'ils savent pas, connaissent pas la grammaire. Il y a peut-être ça, ce sont des gens assez médiocres. Mais de toute façon, c'est volontaire. Il faut que le langage soit confus pour noyer la pensée, pour mieux tomber dans les pièges. Ça, c'est typiquement moderniste. Donc, mais voilà, la seule réponse que j'ai eue, c'est cette méfiance. Ah, alors on ne se méfie pas des prophètes, des faux prophètes, mais le catéchisme de Saint Pie X est digne de méfiance. Et celui qui distribue un catéchisme de Saint Pie X est digne de méfiance. Alors que celui qui distribue des prières qui viennent du ciel, de l'archange Saint Michel, de la Sainte Vierge, de Saint Machin et de Saint Truc, de la Trinité, alors cela, Ah oui, c'est sûr qu'on peut leur faire confiance. Ah, c'est tel prophète qui l'a dit. Ah oui, c'est certain. Mais si jamais c'est Pidis, oh, pop, pop, c'est douteux. Tu veux faire un schisme? Oui, Saint-Pédis, c'était bien, mais c'était bien au début du XXe siècle. Aujourd'hui, ça a changé. Alors voilà. Alors, ce qui est difficile, c'est d'amener les gens à la raison, de leur faire comprendre que Jésus-Christ a institué un moyen par lequel il voulait enseigner ses disciples ce qui était la tradition, et que si on rejette le moyen que Jésus a choisi, eh bien c'est Jésus lui-même qu'on rejette. Donc forcément, on va tomber dans les mains du diable. C'est très difficile d'expliquer ça parce que les gens sont possédés à la fois par leur péché, par leur ignorance et par le milieu qui les entoure et qui les rend prisonniers du mensonge. Voilà, trois choses, le péché intérieur, l'ignorance et le milieu social. Le conformisme, puisque aujourd'hui tout le monde est hérétique, ben, c'est difficile de devenir chrétien. Enfin, j'ai dit, dans ces milieux dits chrétiens, quasiment tout le monde est hérétique. Donc, conformisme social, c'est d'être hérétique aujourd'hui. Alors, c'est assez difficile, mais on continue. Amen.